chronique algérienne va ouvrir aujourd'hui une nouvelle série, après la série consacrée à l'Espagne, à l'impérialisme espagnol et aux différentes guerres qui ont alimenté la relation l'Espagne et l'Algérie pendant près de 3 siècles. Aujourd'hui, donc, nous allons inaugurer une série consacrée aux États-Unis, aux relations de l'Algérie avec les États-Unis et avec leur émergence dans la vie de la politique internationale. Les États-Unis d'Amérique vont donc naître, ils vont évoluer, vont se stabiliser, gagner en force, gagner en puissance, vont aller au-delà de leur côte immédiate, vont commencer à aller vers les autres nations. Et les États-Unis vont donc marquer leur présence en Méditerranée. Cette présence-là va être marquée dans des conditions particulières. Le bassin méditerranéen vivait une période aussi très particulière avec des conflits, des alliances entre les différentes puissances qui étaient tout autour du bassin méditerranéen. Donc c'est un petit peu toute cette période, tout ce climat, tous les événements qui ont émaillé cette période-là, et avec, bien entendu, comme principal sujet, c'est les États-Unis, l'Algérie et les relations qu'ils ont établies à ce moment-là, et puis par la suite, comment cet ensemble va évoluer. C'est donc tout cela que nous allons évoquer avec vous, Ami Majid Chiri, et vous, si on vous demandait comment va-t-on commencer cette série, quel est l'élément essentiel qui, à vos yeux, il faut absolument souligner et qu'il faut absolument mettre en avant. Commencer cette série avec.
Bien, le sujet est très très vaste, comme l'était d'ailleurs celui de l'impérialisme espagnol. Et donc, nous sommes obligés de choisir des repères, donner des exemples, pour essayer de nous situer. Parce que notre souci, c'est toujours de remettre l'Algérie dans le contexte international comme acteur, comme partenaire, et non pas seulement comme un pays qui subit. Si le destin a fait que ce pays a dû subir à un certain moment de son histoire, à un autre, il était l'un des grands acteurs. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, le centre du monde, à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est non pas l'Europe, prise stricto sensu, mais c'est bien le monde méditerranéen. Et donc, tout se joue autour de la Méditerranée et en Méditerranée. Alors, la première question que l'on peut se poser, les États-Unis n'étant pas pays méditerranéen, qu'ont-ils à voir dans cet ensemble? Eh bien, les choses ne sont pas aussi simples. Et pour cela, pour expliquer un peu tout cela, je crois que, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous devons fixer le cadre dans lequel évoluent les différents acteurs, les différents partenaires en matière de relations internationales. Et ainsi, nous montrerons la place qu'occupait l'Algérie dans ce monde méditerranéen. Alors, nous sommes, pour bien nous situer dans l'histoire, nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est à partir de 1750. C'est une période d'apparente stabilité en Europe. C'est le siècle des Lumières. C'est la résultante de la Renaissance. Donc, tout un esprit philosophique a déjà fait son chemin. C'est la période des encyclopédistes, donc du savoir très, très, très vaste. C'est le temps de faire le point des connaissances. En matière politique, c'est également, puisque dans le domaine des connaissances, on voit très large, en matière politique, on va voir également très large. Et la période qui nous intéresse, en Méditerranée, il y a cette rivalité ottomane, russe, d'une part. Il y a les petites rivalités à l'intérieur de l'Europe pour des problèmes de succession. Il y a la montée d'un certain sentiment d'appartenance à un groupe et qui va vers le sentiment des nationalités au XIXe siècle. Tout cela est en préparation. L'Algérie, à ce moment-là, assurait effectivement une prépondérance, bien que les livres d'histoire nous parlent de prépondérance anglaise au XVIIIe siècle, après la prépondérance française.
Oui, mais j'imagine que là, on signalait simplement le lieu, on signalait un lieu, et bien entendu, comme il s'agissait de désigner une puissance européenne.
Oui, donc, bien sûr. De toute façon, les puissances extra-européennes n'étaient pas admises et n'avaient pas voix au chapitre.
Il suffit de voir les livres d'histoire européens, des nations européennes. Toute cette période-là est entièrement occultée, c'est-à-dire que quand ils sont présents, leur présence est signalée.
Exactement.
Quand ils sont absents...
C'est le vide.
C'est le vide, absolument.
C'est le vide, c'est le vide, effectivement. Une puissance comme la puissance ottomane, l'Empire ottoman n'a été admise comme partenaire officiel dans les relations internationales qu'en 1853, au concert européen.
C'est-à-dire au moment où...
L'homme malade était déjà... sa maladie était déjà assez avancée, et donc...
Et le corps bien. Dépecé.
Alors donc, cette période-là va faire naître un conflit en Amérique, entre les Américains, ce qu'on peut appeler les Américains, mais qui sont en réalité des citoyens anglais, puisque les colonies américaines étaient des colonies anglaises, les 13 colonies, et cela va amener ces colonies anglaises à cheminer vers l'indépendance. Cette indépendance est déclarée après la convention de Philadelphie, la première et la deuxième, et en 1676, c'est l'indépendance des États-Unis. L'indépendance des États-Unis amène un remodelage dans les relations européennes, inter-européennes. Donc les Anglais viennent de perdre leurs colonies en Amérique, je parle des 13 colonies, ce qui devient les États-Unis d'Amérique. Et c'est le blocus, les suites de la guerre entre la puissance colonisatrice et les colonies. Il y a un blocus maritime qui est établi sur les États-Unis, sur le commerce avec les États-Unis. Les États-Unis avaient besoin de commercer avec le monde extérieur, et c'est ainsi que commencent les rapports entre les États-Unis en tant qu'État et les États extra-américains, et particulièrement avec l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ? Eh bien parce que l'Algérie, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, l'Algérie avait pratiquement la prépondérance, et même je dirais, c'est peut-être un peu fort, mais c'est la réalité, la tutelle sur la Méditerranée occidentale. Et la Méditerranée, c'est le centre commercial par excellence. Toutes les lignes commerciales passent par la Méditerranée. Même celles qui doivent faire le tour par l'Afrique. Parce que passer non loin de Gibraltar, c'est juste à côté de la Méditerranée, là également. Et donc, l'Algérie va être sollicitée pour assurer une certaine protection au commerce américain contre le blocus américain, le blocus anglais. Pour ce qui est de l'Algérie, l'Algérie à ce moment-là était province de l'Empire ottoman, ça c'est établi, mais c'était une province indépendante. Et la preuve de cette indépendance, c'est que à chaque fois qu'un problème international naissait entre l'Algérie et une puissance, n'importe quelle puissance, il arrivait que l'on demande, ou que l'on demanda, les bons offices du calife. Ce qui démontre très bien que le pouvoir central en Algérie, même si s'il déclarait une certaine allégeance à l'Empire ottoman, ce n'était qu'une allégeance de pure forme.
À la limite spirituelle ou morale.
Uniquement spirituelle. Uniquement spirituelle parce que le calife représente l'autorité de l'islam.
Et c'est à ce titre que l'allégeance se fait, et ce n'est pas une allégeance de souveraineté.
Absolument pas, puisque de toute façon l'évolution des choses à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle va démontrer de plus en plus cette indépendance et cette autorité qu'ont les Algériens, l'État algérien, dans les relations internationales.
C'est-à-dire que il faut arrêter de penser que cette relation qui existait entre Alger et le Khalifa, le centre du pouvoir spirituel, ce n'est pas. Il faut arrêter de penser de penser que c'était le centre politico-administratif qui donnait les directives de gestion et d'exploitation à l'intérieur de cette terre que l'on appelait et qu'on appelle toujours l'Algérie.
Exactement.
Il n'y avait pas un gouvernement califal qui donnait à des beys, à des deys, des directives avec consignées dans un parapheur c'était pas ça.
Pour être beaucoup plus précis et pour également lever toutes les équivoques, chaque fois qu'un dey était nommé à la tête de l'État, le pouvoir central acquiesçait le choix. Et c'est devenu une tradition. Chaque fois que la reconnaissance venait du calife, la reconnaissance du chef de l'État, était accompagnée d'une lettre. Cette lettre, que certains croient que c'est une lettre d'investiture, non, c'est une lettre de reconnaissance. C'est une lettre de reconnaissance
dans le jargon diplomatique,
c'est une lettre de reconnaissance. Cette lettre contenait des conseils. Les conseils que donne une autorité spirituelle pour, disons, amener chaque chef d'État à avoir le comportement qu'il faut avec ses sujets.
Toute raison gardée, c'est la relation qui existerait éventuellement et que l'on pourrait trouver dans une correspondance entre le pape et le roi d'Espagne.
Exactement.
Et c'est le type de relation qui peut exister entre le roi de France et le pape, entre le roi d'Espagne
oui,
et
oui.
le pape.
Entre oui, c'est cela.
Les différentes.
C'est cela. Parce que l'intervention de la sublime porte, comme on l'appelle, l'intervention dans les affaires politiques, se faisait tout simplement à travers de bons offices. C'est-à-dire que sollicité par les Anglais ou par les Français d'intervenir, le calife intervenait, mais intervenait à titre d'arbitre pour essayer de trouver le compromis qu'il faut. Donc, pour en revenir aux États-Unis.
Juste un point.
Oui.
Nous avons vu la relation d'embargo, de blocus qui existait entre les États-Unis déclarés indépendants et l'Angleterre, cela se comprend. Mais quelles étaient les relations à cette époque-là entre les États-Unis nouvellement indépendants et l'Espagne, entre les États-Unis et l'Italie, entre les États-Unis et la
justement,
France?
Justement, à partir du moment où la déclaration d'indépendance a été proclamée.
Est-ce qu'il y a eu solidarité avec l'Angleterre? Comment ça s'est passé?
Les traditions diplomatiques de ce temps-là voulaient que chaque fois qu'un État était créé, la reconnaissance des autres États n'était pas automatique. Et ce n'était pas un comportement spontané. Aujourd'hui, par exemple, un État qui devient indépendant oblige les autres États à faire une déclaration en disant « nous reconnaissons l'indépendance de tel État ».
Mais le fait que, juste un...
Contrairement à cela, à ce moment-là, c'était l'État indépendant, le nouvel État, qui sollicitait la reconnaissance des autres. Et c'est ainsi que Franklin s'est retrouvé ambassadeur itinérant des États-Unis pour venir expliquer aux Français la nature du conflit avec l'Angleterre et les raisons qui ont amené les Américains à déclarer leur indépendance et donc solliciter l'indépendance. J'ajouterai un point très important. Cette reconnaissance étant sollicitée, elle s'accompagnait d'une certaine somme d'argent qui était versée à l'État qui reconnaissait l'indépendance des États-Unis. Et chose paradoxale, ce qui ne se fait plus d'ailleurs, la somme démontrait en elle-même l'importance de l'État sollicité pour donner sa reconnaissance. Si nous faisons une petite comparaison entre la reconnaissance algérienne de l'indépendance des États-Unis et la reconnaissance marocaine, par exemple, ou tunisienne, ou libyenne d'ailleurs, la somme d'argent qui a été donnée, qui a été versée à l'Algérie, était pratiquement le double de ce qui a été versé au Maroc ou à la Tunisie ou à la Libye. Cela voulait dire que l'on sollicite la reconnaissance d'une puissance selon son degré de puissance. De même que pour ce qui est de l'Algérie a été sollicitée pour reconnaître l'indépendance des États-Unis. Mais, par exemple, pour le Maroc, c'est le Maroc qui a essayé de donner sa reconnaissance sans qu'on le lui ait demandé.
Son agrément.
Oui, si on veut. Et même, l'histoire nous dit que le Maroc a envoyé une délégation à Paris pour rencontrer l'ambassadeur américain et lui annoncer la reconnaissance du Maroc pour les États-Unis, ce que l'ambassadeur avait refusé.
Mais comment ça s'est passé avec la France et avec l'Espagne, surtout l'Espagne, parce que l'Espagne ayant ses propres colonies en Amérique du Sud.
De toute façon, l'indépendance américaine n'a pas été très très bien vue par les Européens.
Sans oublier les liens familiaux, c'est-à-dire étant donné que...
D'abord, il y a les liens familiaux, mais il y a...
Entre les différentes cours d'Europe.
Mais il y a surtout des luttes d'influence. Des luttes d'influence et l'Amérique, ou la guerre d'indépendance de l'Amérique, était l'occasion pour certaines puissances européennes d'avoir à convoiter le territoire américain. C'est bien que les Français... vont essayer d'intervenir, les Espagnols également, puisque les Espagnols étaient déjà aux Amériques depuis très longtemps.
Ouais.
Et le fait qu'un État indépendant soit déclaré, le fait qu'un État indépendant soit déclaré aux États-Unis, cela ne fait pas l'affaire de ces puissances. Donc, pour ce qui est de l'Algérie, l'Algérie a également des obligations internationales. Et la reconnaissance algérienne n'a pas été immédiate. On a toujours dit que l'Algérie était le premier État à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Cela est vrai si l'on considère que cette reconnaissance a été sollicitée. Parmi les pays qui ont été sollicités à donner leur reconnaissance, l'Algérie est le premier État, effectivement. Mais, pour ce qui est de la reconnaissance effective, le Maroc est effectivement le premier État, mais c'est le Maroc qui a proposé la reconnaissance, alors que l'Algérie a été sollicitée. C'est tout à fait le contraire. Parce que c'est un fait établi qu'à ce moment-là, la déclaration n'était pas volontaire. Elle était provoquée, elle était sollicitée. Donc voilà l'Algérie. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi l'Algérie a été sollicitée et d'autres États européens ont été sollicités mais n'ont pas donné leur accord? L'Algérie a mis 10 ans, a mis presque 20 ans pour reconnaître l'indépendance des États-Unis. Elle a eu un comportement vis-à-vis des États-Unis, même non reconnu, elle a eu un comportement pratiquement d'allié. Mais sur le plan politique et diplomatique, la reconnaissance a mis quand même 20 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Algérie avait des obligations internationales en tant que grande puissance. Elle avait tout un tissu de relations qui avait été établi dans le siècle passé et que l'Algérie devait prendre en compte pour éviter des problèmes diplomatiques. Donc cela est assez révélateur. Viennent ensuite tout le processus qui se met en place après la Révolution française de 1789. C'est un changement politique, c'est un bouleversement. Un bouleversement politique qui fait que l'Algérie a été sollicitée par les États-Unis parce que ce n'est pas une royauté. De même que le gouvernement de la Révolution française aura le même comportement. Il sollicitera la reconnaissance de l'État algérien tout simplement parce que ce n'est pas une royauté. Et la guerre d'indépendance ayant été présentée comme étant une révolution également, donc on ne peut pas solliciter une royauté pour reconnaître une révolution. Et d'ailleurs, chacun sait quel a été le comportement de l'Europe vis-à-vis de la Révolution française, quel a été le comportement de l'Europe vis-à-vis de ce qu'on appelle la Révolution américaine. Donc, l'Algérie étant pratiquement une république, puisque le chef de l'État était élu. Bon, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont liés à cette élection, mais c'est une élection. C'est une république. Il y a énormément de traités qui montrent l'Algérie comme étant une république. Et donc, il est tout à fait normal qu'une république sollicite la reconnaissance d'une république. Bien, je crois que le cadre est ainsi fixé.
Oui.
Et nous pouvons aborder lors de la prochaine émission les relations algéro-américaines dans un peu plus de détails. Et nous essayerons d'expliquer l'importance de ces relations et surtout leurs conséquences.
Merci pour votre attention et bonsoir.